Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, un groupe de chanteuses, choristes, et donc je vais passer en faisant le tour de table pour les présentations, à commencer par Émilie, bonjour.
Et bonjour.
Ensuite Dominique.
Bonjour.
Marie.
Bonjour.
Audrey.
Aloha.
Béatrice.
Coucou.
Stéphane.
Et bonjour.
Et Anne-Marie.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes toutes les sept ici pour annoncer un spectacle que vous donnerez demain au Café des Lys, le mardi 7 août, à partir de 20h, c'est ça? Sur la terrasse, s'il ne pleut pas, sinon vous restez à l'intérieur. Voilà, on mettra le monde dehors.
Un concert improvisé, un concert dernière minute.
Ouais, organisé par Charlotte.
Ouais.
Voilà, Charlotte, qui est présente au studio aussi et qui est là en tant que photographe officielle. Donc, elle a droit au silence. Votre formation s'appelle Velvet Underground.
Pas tout à fait.
Comment ?
Vulvet.
Vulvet, oui. Ouais. Mais je le prononçais un petit peu à l'anglaise. Velvet. Ouais, c'est une déformation. Hein. Pourquoi ce titre ?
Des titres, on en a cherché quand même pas mal. On a toute une liste avec plein de noms potentiels pour nous. Formation chorale qui, là, aujourd'hui, 7, mais normalement 8. Une des vulvettes n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Mais à 8, on a cherché pas mal de noms qui pouvaient être représentatifs de ce qu'on faisait. Et on a gardé Vulvet Underground, déjà parce que... Le Velvet Underground était dans les sonorités et dans ce qu'ils font tout à fait très plaisant. Et Vulvet, ça nous faisait hérir. Et en même temps, on travaille beaucoup sur un répertoire de chants féminins, parfois féministes. Et que mettre vulve dans notre nom, ça nous semblait très cohérent.
Est-ce que pour vous, Nico a été un fer de lance, justement, qui était la chanteuse de Velvet Underground ?
On fait pas trop dans le très rituel, cérémonial. Nico, c'est quand même un peu lourd comme ambiance. On est un peu dans quelque chose de plus léger quand même, au niveau du chant en tout cas.
Même si ça nous arrive de ritualiser, notamment dans les rendez-vous publics, on a des rendez-vous comme ça, à l'intérieur des chants et du répertoire qu'on met en place, on peut avoir aussi parfois des rituels, mais pas autant que Nico, ça c'est évident.
Par contre, on vient d'une ville, Saint-Étienne, qui est très underground.
Donc, dit Stéphane.
Donc, vous êtes une formation de Saint-Étienne.
Oui. Oui, on est stéphanoise. Et l'envie, c'était d'être un groupe non mixte pour vivre cette expérience et d'avoir un répertoire féministe à la fois traditionnel pour faire passer, parce qu'on est nous-mêmes aussi en curiosité, en demande, enfin, on peut être à différents degrés de chemin. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'on sait tout, loin de là, mais d'être dans ce voyage-là et de pouvoir aussi le partager. Donc au départ, c'était surtout des chants dans la rue. Et puis par des rencontres, au fur et à mesure, on a l'occasion de faire des scènes dans des festivals ou ce genre de choses. Et y avait aussi l'envie de rester très ouverte, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire des chants du monde qui sont pas forcément dans le répertoire féministe, mais qui nous font envie, qui nous font plaisir, et puis tout en gardant une certaine cohérence, quelque chose comme ça.
Dit Audrey.
Comment vous vous êtes retrouvées toutes les huit
En fait, ça s'est fait, moi je suis Marie, et Anne-Marie et moi, on faisait partie d'une chorale de chants de lutte sur Saint-Étienne, et dans laquelle il était quasiment impossible de proposer des chants féministes. Il y avait beaucoup de personnes qui mettaient leur veto sur ce genre de lutte. Et du coup, ça nous a un petit peu ennuyés, parce qu'on y tenait beaucoup. Finalement, on a décidé d'aller les chanter ailleurs, avec d'autres personnes, et puis surtout avec des femmes. Et puis après, ça a été des affinités, plutôt, surtout des amis... on a demandé à droite à gauche. Au départ, c'était un groupe ouvert. Alors, on s'est retrouvés avec des filles qui... On répétait tous les mardis soirs, une fois par semaine. Puis, il y avait des filles qui venaient, qui repartaient. Et puis, un jour, étant donné qu'on était quand même un noyau dur à avoir envie vraiment de travailler ces chants, on a fermé le groupe et on a fait former vraiment un groupe. Et c'est de là qu'après est venu le nom et tout ça. Voilà.
Alors, c'est une formation où il n'y a pas d'hommes, ça c'est évident, non ?
On en croise souvent.
Vous en avez qui viennent chanter avec vous ?
On a eu un musicien, Mathieu Barbance, qui est venu avec nous, contrebassiste, et qui nous a accompagnés sur quelques chants et qui était tout à fait bienvenu. Mais ça reste des rencontres qui sont ponctuelles. Le Velvet Underground, on a arrêté le fait que c'était non mixte. Ce qui n'empêche pas d'avoir aussi des échanges qui puissent se faire évidemment avec des hommes.
Oui, de faire le bœuf ici ou là avec un tel ou une telle.
Nos concerts se terminent souvent en bœuf d'ailleurs.
Voilà. C'est le plaisir d'ailleurs d'un répertoire, si on peut dire traditionnel ou historique, c'est que du coup ça crée du lien avec des personnes inconnues, et ça c'est assez magique.
Vous avez commencé l'émission par entonner un de ces chants. Est-ce que vous pourriez nous le présenter et en parler un peu? Alors c'est
on a commencé...
Audrey.
Béatrice,
pardon.
On a commencé par un chant qui s'appelle Domi Vamis. C'est un chant Laz. C'est une région de la Turquie sur la mer Noire. C'est un chant qui donc traditionnel, très 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 traditionnel. On a du mal à trouver la traduction parce que c'est un dialecte, c'est un peu une sorte d'occitan turc. Enfin voilà, donc compliqué d'avoir la traduction. Mais le sens de ce chant, c'est en fait une femme qui en a marre de travailler pour son maître et de ramasser le maïs, et elle est fatiguée de ramasser le maïs et d'être cette esclave en fait, et exploitée en tant que femme dans les champs. Voilà, c'est un chant qui raconte ça.
Pour le premier chant, donc, il y a quand même un leitmotiv chez vous, c'est la colère.
La colère, pas forcément.
Elle est présente.
Oui, elle est présente, mais pas que.
Mais pas sans humour. L'idée aussi, c'est de, voilà, de constater ce qui ne va pas et que ça nous fasse quand même rire, parce que sinon...
En fait, on se rend compte que très vite, dès qu'on veut parler des discriminations, des inégalités... ce genre de soucis, le fait de juste prendre la parole et de les poser sur la table, le mot colère arrive. Alors la colère est très saine et c'est intéressant de la vivre et d'en parler, mais en même temps dire qu'il y a un problème, ça veut pas dire que tout le monde est en colère non plus. Enfin, moi, ça veut pas dire que voilà, il y a un sujet à traiter et parce que la colère, je trouve qu'elle a plusieurs visages, et autant elle est saine, autant parfois elle est montrée du doigt comme si c'était quelque chose qui était un peu discréditant en fait pour les femmes, qu'elles soient en colère.
Et tabou, c'est une émotion qui est un peu tabou aussi dans nos sociétés. Finalement, c'est quelque chose qui doit se vivre aussi et s'extérioriser. Donc effectivement, ça fait peut-être partie d'une des choses effectivement qu'on peut exprimer à travers nos chants. Mais pas que, il n'y a pas que cette émotion-là en tout cas.
C'est ni qu'une histoire d'émotion, mais c'est aussi une histoire de mots. C'est-à-dire que dans les chants que nous utilisons, on a des chants qui sont en français, où là, de fait, le verbe prend pleinement sa place, mais on a aussi beaucoup de chants qui sont, là, pour le coup, pas forcément maîtrisés par toutes. Quand on est en romani, ou en yiddish, ou même en occitan, mais dans la traduction, on sait qu'il y a du sens dans ce que nous disons, et puis il y a le verbe qui est présent aussi, qui rythme. Et puis le plaisir du chant aussi, et que dans les émotions, on n'est pas que sur une expression de colère, mais il peut y avoir de la revendication, de l'affirmation, mais aussi le fait de nommer.
Je ne connais pas votre activité professionnelle de chacune, mais est-ce que cette activité œuvre dans le sens de ce que vous voulez pour de meilleurs moments ?
Ah bah, à titre individuel, j'imagine qu'on est toutes engagées dans nos propres vies, dans ce combat-là, je pense qu'effectivement. Après, pas forcément de manière organisée, explicite, etc., mais... Le changement, il est aussi, enfin, il est d'abord individuel et le privé est politique, donc oui.
Ça a répondu à tous. Et puis, on va passer au deuxième morceau, donc.
Alors, l'hymne des femmes, c'est l'hymne du MLF. Il a été composé dans les années 70, au tout début du groupe donc, formé par ces femmes du MLF, composé alors par une équipe qui s'est appelée les Petites Marguerites. Qui est un chant qui a été voilà, beaucoup utilisé dans les manifs, que nous on a envie de transmettre, qu'on trouve toujours actuel. Et voilà. Oui, la mélodie, c'est une mélodie d'un chant qui parle des prisonniers allemands dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les paroles donc, ont été réécrites par les féministes du MLF au début, enfin dans les années 70, au début des années 70.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons. dans nos entraves. Debout, debout, seuls dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisé, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entraves. Debout,
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 debout.
Vous êtes inscrite dans ce cas de à quel niveau du féminisme quelque chose de très revendicatif, activiste?
C'est difficile de dire que le Vulvette est orienté de telle manière vis-à-vis du féminisme, parce qu'on s'est rencontré avec une envie commune pour les huit de pouvoir réfléchir à la question du féminisme par le chant aussi, et que sur les huit, on est huit à être en chemin. Pas aux mêmes endroits, pas avec les mêmes points de départ, et puis à des rythmes différents aussi dans nos progressions par rapport à ça. On est en tout cas, Émilie, moi, je me sens toujours en apprentissage permanent vis-à-vis du féminisme, et que le féminisme évolue aussi, et qu'il y a les féminismes. Est-ce que le Vulvette en underground est absolument en sous-titre chorale féministe? On peut y apporter pas mal de bémols. Il l'est, mais pas que, et à différents degrés.
Disons qu'on a, des ancrages idéologiques qui ne sont pas hyper explicites. Enfin, on ne s'inscrit pas spécifiquement dans tel courant, de telle tendance, etc. Mmh. L'idée, c'est aussi, justement, aussi entre nous, de partager des lectures, des expériences, des retours. Voilà.
Et en même temps, quand on a l'occasion de rencontrer des événements, des lieux féministes, du coup, on a plaisir à y aller pour apporter notre graine et rencontrer d'autres personnes. Donc ça reste quelque chose de fil conducteur.
Mais justement, votre formation féministe a cet écueil peut-être pour être accueillie sur divers types de festivals, parce que je suppose que vous êtes plutôt à jouer au sein de festivals dédiés au féminisme en priorité. Non, vous êtes... Non, pas du tout.
En fait, l'idée, c'est de pouvoir à la fois... être en rencontre avec des personnes qui ne le seraient pas et pouvoir rendre cette parole existante, possible, de la même manière que ça fait aussi du bien d'être dans des milieux militants féministes. Mais l'idée, c'était, au départ, c'était de pouvoir jouer dans la rue de manière impromptue et puis de voir comment ça réagit en face, en fait.
Et comment nous, ça nous fait réagir. Exactement. Et comment ça circule, et pas forcément avec des gens qui sont déjà avertis. Mmh. On n'est pas que dans un débat d'idées ou dans des échanges politiques. Avant tout, ce qui prime, c'est néanmoins le chant.
Oui, c'est ça, et dans le répertoire lui-même, il y a quand même une diversité aussi de chants militants, mais tout à l'heure tu parlais de chants de femmes, de chants du monde, qui ouvrent, je trouve... les points de vue aussi sur cette question du féminisme de...
Ça les ouvre, ça les complète.
Même si quand même, on se retrouve souvent dans des événements militants. Enfin, je veux dire, contre la 45, dans des événements liés à l'agriculture paysanne, dans ce milieu-là aussi quand même.
Oui, oui. Et qu'on est très contente d'aller à la Clémenterie à Jaujac le 31 août et 1er septembre, une ferme autogérée féministe. et que voilà, on est tout excités, enthousiasmés de s'y rendre.
Et la Drôme. Et la Drôme.
Au niveau de la tournée, de la Drôme, vous avez d'autres dates à venir?
Non, en fait, c'est grâce à Charlotte, ici présente, que nous sommes là. Voilà, en fait, moi je suis venue avec une amie au mois de mai, c'était ça, il y avait la chorale d'ailleurs, les Meutes, qui ont organisé une petite rencontre avec d'autres chorales de chants de lutte. Et c'est là que j'ai pu rencontrer Charlotte, et voilà, c'est dans la... les affinités qu'on a pu avoir, où ça s'est passé un peu comme ça, très naturellement. Nous, avec le Vulvette, on avait envie d'avoir une semaine dans l'été pour répéter, surtout faire une résidence. Et on aime bien allier résidence-vacances quand même. On aime bien quand il fait beau et on aime bien retrouver au bord des rivières et chanter au bord de la rivière, etc. Ce qu'on a déjà fait en Ardèche, justement. Et il s'avère que Charlotte nous a proposé de nous accueillir. Et c'est génial, donc nous sommes arrivés ce week-end et nous sommes là pour la semaine. Et entre-temps, Charlotte nous a aussi proposé de faire un concert au Lys. Enfin, en fait, c'est Charlotte qui a l'initiative de tout ça. Voilà. Mais nous n'avons pas d'autres dates.
Il n'y a pas un marché. Le
but,
ou un truc.
Du marché, ouais. Des choses comme ça. Mais,
En fait, le but à la base, ce n'était pas forcément le concert, c'était de se retrouver pour travailler. Et puis, de toute façon, on allait chanter forcément dans la rue ou quelque chose comme ça. Et puis après, c'est les concours de circonstances, les rencontres qui... nous font chanter dans des lieux spécifiques.
Et je voudrais bien revenir aussi sur le type de manifestations dans lesquelles on peut chanter. Il y a aussi effectivement toutes les fêtes paysannes, des semences, etc. Et puis il y a tout ce qui est concert de soutien aux familles migrantes, aux gens qui arrivent en France et dans des états pas possibles, et des écoles qui arrivent à soutenir par l'intermédiaire des enfants, qui arrivent à soutenir des familles. Et c'est vrai que quand on nous demande... est-ce que vous voulez bien chanter pour qu'on puisse un petit peu récolter des fonds, de l'argent pour aider telle famille, telle structure, telle association? Eh bien nous, on est toujours partante parce que c'est aussi notre énergie et on a envie d'être là pour ça, quoi. Enfin, voilà, et on répond présente.
Et on va passer pour terminer l'émission au troisième morceau. Alors ce morceau, quel est-il?
Alors c'est un morceau mexicain d'une chanteuse et compositrice mexicaine qui s'appelle Liliana Felipe.
Nous n'avons pas la traduction du titre, c'est El Clitoris, mais je sais pas, on n'a toujours pas compris ce que c'était.
Voilà, c'est en espagnol. Hein.
Je mettrai un lien sur le Robert.
Merci.
Voilà, ça explique où ça se trouve, comment ça marche, que c'est réservé aux femmes et qu'on a quand même bien de la chance. Voilà.
C'est ça. Oui, parce que quand même, c'est au niveau anatomique, hein, comme la médecin Buisson, je ne sais plus son prénom, Odile Buisson. Oui, voilà, ça date, enfin, Anne-Marie, tu saurais plus...
C'est les années 2000. Hein,
c'est les années 2000. Ouais. Au niveau de la modélisation du clitoris, la modélisation de tout ça, c'est vraiment très, très tardif, on va dire.
C'est un organe qui a été absent des manuels de biologie...
C'est ça qui est étonnant. Il a disparu, en fait, il était dans les manuels d'anatomie, il a disparu au XVIe siècle, je crois, et il est revenu maintenant, il revient dans les manuels scolaires cette année, je crois.
Et du coup, dans la chanson aussi, ce qui est intéressant, ce qui est noté, à un moment donné, c'est qu'il n'existe pas un clitoris, mais des clitoris.
Voilà.
Et ce n'est pas un bouton.
D'accord.
Un iceberg.
Et alors, comment expliquez-vous, justement, ce retour du clitoris?
Là, on va rentrer dans grosse question de fond là.
On n'a pas préparé. Hein.
Ouais. Je pense qu'on, enfin, je sais pas, ça tient à l'époque dans laquelle on vit où il y a vraiment un retour en force du féminisme. Enfin, moi, c'est quelque chose à quoi je m'attendais pas du tout. Enfin, on était tellement dans une période de backlash dans les années 90 où on n'en parlait plus du tout. Où c'était ridicule d'être féministe et on se faisait moquer dessus.
Ouais, on était des vieilles frustrées quoi.
Avec des poils aux pattes.
Hargneuses. Et anti-homme.
Et là, il y a une espèce de tendance de fond, quoi. Je crois qu'on s'est retrouvé dans l'air du temps, en fait. Hein.
De réappropriation de notre corps aussi. Ouais. Enfin, y a
ça commence par ça.
Oui, c'est ça.
Et de la connaissance où des femmes sont arrivées à un moment où elles ont pu justement, Odile Buisson, monter son truc. Où il y a une parole féminine qui s'exprime ces dernières années, comme ça n'a pas été le cas pendant 15 ans. Enfin, c'est quand même assez impressionnant, quoi.
Autour du féminisme, on peut remarquer depuis quelques années aussi un retour à l'antiféminisme, non ? Vous n'avez pas cette impression ?
Tout partout.
Moi, ça me fait penser au classique et au baroque dans la musique, c'est-à-dire que les choses s'alternent et coexistent en même temps. Les paradoxes sont coexistants, puis à un moment donné, il va y en avoir un qui est plus en force, ensuite il va y avoir l'autre. Après, peut-être l'intérêt de ces dernières années, c'est que les paroles se prennent plus facilement dans l'espace public grâce aux luttes précédentes, en fait. Et que du coup, les paroles même opposées peuvent se rencontrer et coexister. Parce qu'après, le but, c'est pas forcément d'avoir raison, même si on a envie de militer pour nos opinions, mais le fait qu'on peut quand même voir des avancées, même s'il y a des choses cycliques qui se répètent, le fait qu'on puisse parler, que ce soit notamment en radio aujourd'hui, mais dans la rue, parce qu'il y a plein de rendez-vous aussi qui sont dans la rue, ça fait partie certainement des avancées.
D'ailleurs, vous allez dans d'autres radios pour parler de vous et de vous faire connaître ?
Non.
Profitez-en, hein. Il y a des radios associatives partout en France. Ouais. Ne pas hésiter à les joindre.
On a été invité à Radio d'ici qui se trouve à Saint-Julien-Molamolette. Et puis, il va falloir qu'on réfléchisse à peut-être ou à faire une petite émission là-bas.
Pourquoi
la radio pirate de la ZAD, contre la 45 aussi, on a une proposition aussi pour la rentrée. Enfin bon. Voilà.
Il y a un petit côté informel en fait quand même dans le groupe et c'est vraiment les rencontres qui nous amènent à faire ou à être dans tel ou tel endroit avec concertation et accord du groupe. Mais
c'est vrai que tout se fait un petit peu comme ça. Même nos concerts, on a fait quand même, on a donné beaucoup de concerts quand même cette année, mine de rien, et sans chercher du tout forcément de date quoi. C'est à chaque fois qu'on joue quelque part, il y a autre chose qui s'enclenche. Et ça se fait très naturellement, sans pression. De toute façon, on ne vit pas évidemment de ça. Donc, voilà.
Et comment peut-on avoir connaissance de ce que vous faites sur Internet, par exemple ?
Alors, il y a deux façons d'avoir de nos nouvelles. C'est d'abord le blog. Donc, c'est levulvetteunderground.blogspot.fr. Et on a une page Facebook, Le Vulvette Underground.
L'émission se terminant, nous allons nous quitter. Donc je remercie Émilie, Dominique, Marie, Audrey, Béatrice, Stéphane et Anne-Marie d'être venus au studio et Charlotte aussi. Et donc votre spectacle qui aura lieu au Café des Lys ce mardi 7 août à 20h avec le Vulvette Underground. Bonne soirée.
Merci infiniment.
Au revoir.
Fouf. Si nous sabes donde está tu clitoris, no te metes en ningún intriguris. Una cuarta por debajo del ombligo, busca bien, encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a tus esposas. Las 15000 que se tienen por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones para respirar. Tenemos los pulmones y Jesús ha dicho que solo da placer, un privilegio no más en la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón.